et sur le trimestre qui va venir, j'ai eu à cœur de reprendre un certain nombre de points de doctrine. Et j'aimerais lancer une nouvelle étude que nous allons pouvoir commencer ensemble sur les vérités fondamentales. Qu'est-ce que nous croyons ? Et pourquoi nous y croyons ? Vous allez me dire, mais parce qu'on entend d'ici. Eh bien, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on entend des choses qu'il faut y croire. C'est pas pour autant qu'on n'entend pas certaines choses qu'il faut pas y croire non plus. Les deux sont valables. Et je crois qu'il est bon de pouvoir, eh bien, reprendre un certain nombre de points. Alors, je les ai pas pris dans l'ordre. Ce que je vais faire, c'est quelque chose de simple. Vous l'avez certainement lu déjà. Pour ceux qui lisent, par exemple, le Pentecôte. Ou pour ceux qui lisent les traités que sont les assemblées de Dieu. Vous avez une liste de 12 points de doctrine. Et il y a 12 points qui sont donc nommés et qui font, je dirais, la charte de notre foi, la base de notre foi. Qu'est-ce que nous croyons ? Et donc, quand vous avez là, justement, dans le livre du Pentecôte, dans ce journal, eh bien, vous avez simplement donc un titre qui est donné. Ce soir, je vais commencer très simplement par le commencement, les Écritures. Nous allons voir ça ce soir. Pourquoi nous croyons en la Bible ? Qu'est-ce que la Bible ? D'où elle vient ? Comment elle est faite ? Pourquoi nous devons y croire ? Pourquoi nous ne croyons pas à un autre livre ? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas dans le livre du Coran ? Ou uniquement dans la Torah ? Ou uniquement dans d'autres types de littérature, pourquoi nous croyons dans ce livre-là et uniquement dans ce livre-là. Et puis vous avez un certain nombre de versets bibliques également qui sont donnés donc dans ce journal du Pentecôte en fonction des thèmes, les différents thèmes qui sont abordés. Je ne sais pas si on les fera tous, parce que c'est une étude, si on les fait tous, qui sont facilement sur un an et demi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller dans la salle avec les enfants avant que ça se termine dans un bain de sang ? Non, non, je vous affole pas, c'est juste... Merci, il y a quelqu'un qui est parti. Merci, merci Marie. Il y a quelqu'un qui est allé. Merci. Donc je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, mais en tout cas on va déjà avancer et on va commencer. Si on voulait faire les 12 points sur les 12 doctrines, c'est une étude que j'ai déjà faite, il nous faut au moins un an et demi pour bien aborder chaque point correctement et bien comprendre pourquoi nous croyons en toutes ces choses. Alors, ce soir, nous allons commencer par cela, les Écritures. Alors, quel est le texte qui est donné, je dirais, officiellement ? D'ailleurs, tous ceux qui sont membres de l'Assemblée, qui sont passés par les eaux du baptême, ont dû normalement recevoir les statuts de l'association, de l'Église, dans lesquels est précisé... Les nouveaux baptisés ne l'ont pas eu encore parce que je n'ai pas eu le temps de les finir de les rédiger, donc c'est pour ça qu'ils ne les ont pas. Mais autrement, nous devons les avoir, vous devriez les avoir, c'est obligatoire. Et dans ces statuts, vous avez la charte de foi. Tous les points de doctrine avec tous les versets bibliques qui vous disent, ben voilà, vous vous êtes fait baptiser, c'est-à-dire que vous avez pas simplement accepté le Seigneur, mais vous avez accepté le Seigneur et vous avez accepté également tous les points de doctrine du mouvement dans lequel vous vous êtes engagé. En gros, c'est ça, les statuts qui vous sont communiqués. Et alors, vous avez un petit intitulé. Et l'intitulé que vous avez, c'est celui-ci, concernant donc les Écritures. L'écran 2. Ça ne saurait tarder. Suivant. Encore une fois en bas. Voilà. Les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, l'infaillible règle de la foi et de la conduite de l'assemblée en général et du chrétien en particulier. Voilà ce à quoi vous croyez concernant l'Écriture. Peut-être on peut réexpliquer là, hein, parce que... Non mais c'est tout le temps comme ça, hein, sur quand vous lisez le, tout le pavé, c'est... Mais on va essayer d'expliquer un petit peu ce à quoi cela va nous amener. Il y a une chose qui est importante pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons pleinement convaincus de l'inspiration divine des Écritures, de la Bible. Parce que autrement, on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. On risque d'être comme cette femme qui un jour on a visitée, et quand on lui a demandé à la fin de l'entretien si on pouvait lire un texte, elle a dit « bien sûr, j'ai une Bible, moi aussi, je vais aller la chercher ». Alors elle est partie, elle a fouillé un moment dans ses affaires là, elle mettait un moment, on ne sait pas pourquoi, mais elle cherchait, au bout d'un bon moment, elle a trouvé une Bible, elle est revenue, elle nous a vus. Puis j'ai regardé la Bible, je dis « mais il est bizarre votre Bible ». Elle était aussi grosse, en tout cas, elle avait une couverture aussi grosse que la mienne, mais elle était toute fine. Je dis « mais elle est écrite comment ?» Je dis « je ne connais pas cette version-là, je dis, elle est écrite très très fin, vous arrivez à voir ça ?» Elle me dit « non, mais c'est une Bible normale !» Je dis « ah bon ?» Alors j'ai commencé à regarder. Elle me dit « oui, il y a juste un petit détail, je vais vous expliquer. Depuis que je me suis plus ou moins, elle disait, engagé avec le Seigneur, j'ai lu la Bible. Mais il y avait un certain nombre de choses qui me dérangeaient. Alors au fur et à mesure, j'arrachais les pages. Et je disais, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Par contre, tout ce que j'ai gardé, ça c'est pour moi. » J'ai dit ça quand même, c'est assez spécial comme manière de voir les choses. Je crois que nous ne pouvons pas considérer que la Bible a été en partie inspirée et en une autre partie non inspirée. J'aimerais faire trois lectures avec vous qui ne sont pas sur les vidéos. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 17. Je vais vous faire travailler un peu ce soir. Ça vous fait pas de mal. Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 17. C'est très court. Non, elle regarde, c'est pour ça. Alors, il dit ceci, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, c'est Jésus qui parle, et il dit, ta parole est la vérité. » 2 Timothée, chapitre 3. On va lire 2-3 textes d'introduction. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset... Voilà, c'est celui que vous avez là. Merci de m'aider. Je le cherchais là. Verset 15. Ah, mais il y est, affiché? Ah, mais je crois que je ne les avais pas mis. Ils sont dans les deux autres écrans? Ah, oui. Ah ben ils sont là alors, moi qui voulais vous faire travailler. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'ai mis 2 Pierre 1,21. Ah ben allons-y gaiement. 2 Pierre 1,21, donc voilà, vous pouvez vous reposer, j'entends plus de pages qui tournent. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Pas que des hommes qui parlent, hein. Si nous discutons l'inspiration de la Bible, qu'est-ce qui se passe? Si nous mettons en doute que la Bible ait été inspirée de la part de Dieu, il va se passer quelque chose de très simple. Nous allons plus avoir la Bible comme une autorité. Et elle n'aura donc plus aucune autorité sur notre vie. Et il n'y aura donc plus aucun fondement à notre foi, à notre croyance, à ce qui s'est gravé dans notre cœur. Nous devons comprendre, pour faire une introduction, que la Bible, c'est vrai, n'a pas été écrite par un seul homme, mais par environ une quarantaine de personnes environ. Et toutes ces personnes représentent bien sûr chacune une classe de la société, un niveau de culture complètement différent, et il y a vraiment une grande diversité qui se trouve parmi toutes ces personnes. Quand vous prenez les différents livres de la Bible, vous avez des poètes, vous avez des princes, vous avez des pêcheurs, des bergers, des docteurs, des musiciens, vous avez des pauvres, vous avez des riches, vous en avez qui sont instruits, qui ont écrit, vous en avez d'autres qui sont ignorants, qui ont écrit également. Bref, il y a une très grande diversité d'hommes qui ont écrit cette parole. Elle a été rédigée dans des temps, dans des contrées, et on peut dire aussi dans des circonstances très variées. Est-ce que vous savez que la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans? Ça, c'est la période totale, du moment où ça a commencé jusqu'au temps où ça s'est plus ou moins terminé, où nous avons l'intégralité de la Bible aujourd'hui. Elle regroupe combien de livres? Combien? 66 livres. Combien dans l'Ancien Testament? Ah, là, c'est 39. Et donc, 27 dans le Nouveau Testament. Plus fort, combien il y a de chapitres? Ah, ça, c'est autre chose. Hein. 1188 chapitres. Et de versets? 31 164 versets. Ça, les versets sont venus plus tard. Hein, parce que avant il n'y avait pas de versets du tout. D'ailleurs, on n'avait même pas forcément la structure de la Bible telle qu'elle existait. Des livres s'enchaînaient. Aujourd'hui, on a un livre, premier livre des rois, deuxième livre des rois, etc. Mais avant, c'était qu'un seul livre, un même livre qui était même parfois jumelé avec d'autres livres, comme le livre de Néhémie et bien d'autres. La Bible est un livre qui a été traduit en plus de 329 langues. Le Nouveau Testament a été traduit lui-même pour plus de 770 langues. Et différentes portions de la Bible ont été traduites en plus de 1900 langues à ce jour. Chaque année, il y a plus de 15 millions d'exemplaires qui sont distribués. Ça veut dire 41 000 livres par jour. 1700 livres par heure. En gros, c'est une toutes les deux secondes est distribuée. On pourrait dire que la Bible est vraiment le best-seller par excellence. Et pourtant, en France, seulement 3% des Français la possèdent. Et uniquement 1% en moyenne la lisent régulièrement. C'est très faible. Mais cela ne doit pas nous décourager parce que c'est quand même ce que nous voyons uniquement en France. Mais je regardais des dernières statistiques qui ont été faites très récemment concernant l'évangélisation dans le monde. Vous savez, on est toujours, nous, en train de courir après un réveil. Et plusieurs pensent qu'à la fin des temps, eh bien, un grand réveil viendra avant le retour de Christ. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que quand on parle de cela, ben, personnellement, j'ai aucun verset biblique à donner pour confirmer cette parole-là. Et j'en ai même qui disent l'inverse. Puisque la Bible nous dit que dans la fin des temps, ça sera plutôt l'apostasie. Et puis, la foi et la charité, l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Et ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec un réveil. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a un véritable réveil. Il n'y a jamais eu autant de conversions ces quelques dernières années que depuis 2000 ans. Il y a eu plus de conversions à Jésus-Christ ces 20 dernières années que de Jésus-Christ à 1980. Et actuellement, j'ai pas tous les chiffres que j'ai pris ce matin, mais je vous les donnerai. Je voudrais pas me tromper, mais je crois que actuellement, il y a 9600 personnes par heure qui se convertissent à Jésus-Christ dans le monde. Des pays entiers sont bouleversés par l'évangile. Alors certes, c'est vrai, nous sommes un pays qui a été visité et qui est mis aujourd'hui un peu en index, il nous semble. Mais comme je l'ai déjà dit, je crois que le réveil est là. Et c'est à nous maintenant de nous engager à le saisir. Et on voit des pays qui se sont réveillés, qui se sont bousculés et qui ont fait ce qu'il fallait faire pour que l'action et la puissance de Dieu se manifestent. Et ça s'est fait. Et aujourd'hui dans le monde, il y a vraiment une action puissante de l'œuvre de Dieu. Mais je vais revenir à mon sujet. Concernant les Écritures et concernant la Bible, les tables des matières. On se rend compte que l'ordre chronologique est respecté de la Genèse et il va jusqu'au livre des rois. Et puis les autres, après, ne suivent plus d'une manière chronologique, historique. Ils sont plus ou moins imbriqués les uns avec les autres. Certains étaient contemporains et d'autres étaient complètement éloignés. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Bible du début jusqu'à la fin, pensant que c'est simplement quelque chose dans une continuité de temps. Si nous voulons bien comprendre, quand nous lisons l'Ancien Testament ou autre, il est important de regarder aussi les petits prophètes ou les grands prophètes ou les livres historiques qui ont été écrits dans la même période de temps, si nous voulons comprendre véritablement les histoires. C'est pour ça que dans les chroniques ou dans les rois, vous retrouvez, par exemple, les mêmes informations. Tu vas un peu trop vite, là, on va remonter un peu. Elle se présente justement ainsi. Alors, on a l'Ancien Testament et on a le Pentateuque. Le Pentateuque qui sont les cinq premiers livres de Moïse. Je vais voir si vous vous en souvenez bien comme il faut. Les enfants, ils connaissent souvent ça plus facilement parce qu'ils ont une petite chanson. Hein? Et les moniteurs, généralement, quand ils apprennent la chanson, après, ils connaissent les livres de leur Bible. Et ça, c'est très bien. Il y a les livres historiques, ensuite. Les livres historiques, vous avez Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, il y en a qui connaissent la chanson, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie. Mais vous êtes formidables. Hein? Ensuite, il y a les livres qu'on appelle poétiques. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésias, Cantique des Cantiques. Et puis on arrive au livre de ce qu'on a appelé un temps les grands prophètes. Il y a Ésaïe, Jérémie, les Lamentations, Ézéchiel et Daniel. Et puis il y a ce qu'on a appelé les petits prophètes. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, il y en a qui lisent leur Bible, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachi ou Malachi, comme vous voulez. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, vous avez les évangiles, vous connaissez, vous avez Matthieu, Marc et Luc. Ces trois évangiles sont appelés les évangiles synoptique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il se voit, je dirais, d'un même coup d'œil, d'une même vue d'ensemble. Et c'est vrai que quand on lit ces trois évangiles, ils se ressemblent vraiment de manière très proche. L'évangile de Jean, lui, le quatrième, a une autre forme. Matthieu et Jean sont, on pourrait dire, des témoins oculaires. Ils ont vécu avec Jésus. Luc, lui, la Bible nous dit, il a fait des recherches exactes, dit-il, de son introduction. Dans son introduction, il dit que c'est lui qui a recherché exactement les différents faits, la manière dont ça s'est passé, etc., etc. L'évangile de Marc aurait été écrit sous la dictée de Pierre. Ça, c'est quelque chose... C'est un copain qui m'a dit ça. Les épîtres, ensuite, que nous avons après les évangiles, ou les lettres, c'est épître veut dire lettres, ce sont tout simplement les lettres envoyées par les apôtres aux églises ou à une personne, à quelqu'un en particulier. On a l'épître de Paul et les épîtres de Paul aux Romains, aux Corinthiens. D'ailleurs, aux Corinthiens, quand vous lisez par exemple les deux épîtres aux Corinthiens, eh bien vous vous rendez compte quand vous les lisez les deux qu'il en manque une, parce qu'il fait référence à une autre. Donc il y en a certainement une troisième qui doit traîner quelque part, mais on n'a jamais mis la main dessus, et certainement que Dieu a voulu comme cela. Mais on se rend compte petit à petit justement d'un certain nombre de faits qui sont très intéressants. Vous avez les Galates, les Éphésiens, les Philippiens, les Colossiens, les deux épîtres aux Thessaloniciens, Timothée, Tite et... Merci, Philémon. On a l'épître aux Hébreux, qui, celle-ci, n'a pas d'auteur, en tout cas pas d'auteur écrit. Et quand vous êtes à l'école biblique et que vous osez donner un nom quand même, ben vous êtes blâmé, alors vous en donnez pas. Mais on regarde le style, et c'est la seule épître où on n'a pas d'auteur défini. Et puis ensuite, vous avez les épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude. Et puis la dernière épître de Jean qui s'appelle l'épître de l'Apocalypse, ou plus exactement l'épître de la Révélation. Pourquoi je parle ce soir particulièrement de l'inspiration des Écritures ? Parce que dans notre monde aujourd'hui, tout est fait pour que justement nous ne croyions pas en ce livre. Et des arguments nous sont donnés pour que justement nous puissions dire, mais non, ce que vous croyez est faux. Parce que la Bible n'a pas pu dire cela à cette époque-là, ou la Bible n'a pas pu affirmer, ou ça n'a pas été par Dieu, mais ce sont des hommes qui ont manipulé, etc., etc. Alors, on rencontre plusieurs théories sur l'inspiration divine des Écritures, et je vais vous en nommer simplement 5 ou 6, et on terminera par la meilleure. Vous avez en premier l'inspiration mécanique. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Certains vous disent, non, la Bible, c'est une inspiration mécanique. C'est-à-dire que les auteurs bibliques auraient été entre les mains de Dieu des instruments démunis de toute leur volonté. Et donc, un petit peu comme des robots, ils auraient simplement eu quelque chose dans la main pour noter, pour écrire. Et donc, c'est de manière mécanique, automatique, systématique, démunis de leur caractère, de leur vocabulaire et de leur personnalité, que la Bible aurait été écrite. Mais quand nous lisons l'Écriture sainte, elle nous montre qu'au contraire, le caractère et l'originalité des auteurs se reflètent dans leurs écrits. On vient de parler des évangiles de Marc, Luc, Jean, et on se rend compte qu'il y a une particularité. L'un n'écrit pas, n'a pas le même style d'écriture que l'autre, etc. C'est donc l'inspiration mécanique, quelque chose qu'il nous faut mettre de côté. On a l'inspiration partielle. Alors, les partisans de cette inspiration-là disent que seul le contenu religieux, seul le contenu moral serait inspiré. Ce qui concerne, par contre, tout ce qui est les sciences naturelles, la science physique, l'histoire générale, l'histoire des peuples, etc., etc., ne serait pas inspiré. Mais, encore une fois, lorsque nous regardons l'Écriture, elle n'est pas du tout en contradiction avec les sciences. Il nous suffit d'ailleurs aujourd'hui uniquement de voir les résultats des fouilles et des recherches scientifiques pour se rendre compte que ces recherches mêmes et ces fouilles-là confirme la parole de Dieu. J'ai pas le temps ce soir, mais j'avais parlé avec les jeunes éventuellement d'aborder un jour ce qu'on appelle les dinosaures. Ou également cette grande question scientifique où bien des théologiens n'ont jamais pu se mettre d'accord. Où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Peut-être ça vous dit rien comme ça. Mais c'est une question qui, scientifiquement, pose un grave problème, le problème de notre race. Car quand on s'arrête simplement sur quelques versets du début d'introduction, eh bien, on se rend compte tout simplement que, soi-disant, Dieu aurait pris Caïn et l'aurait mis plus loin, et dans ce plus loin, eh bien, il aurait trouvé sa femme. Donc, par conséquent, les évolutionnistes et les contradicteurs de la Bible disent qu'il n'y a alors pas une seule race, mais il y a des races. Et des races, ça met en porte-à-faux et en contradiction d'abord non simplement toute la Bible, mais même l'œuvre entière de Jésus-Christ. Mais ça, c'est encore un autre sujet. L'inspiration graduelle. Alors l'inspiration graduelle, c'est encore autre chose. C'est certaines parties de l'Écriture, par exemple les prophètes, les psaumes ou les évangiles, seraient plus inspirées que d'autres, comme par exemple... C'est difficile de dire que celui-ci a été plus inspiré que l'autre. Avec quelle valeur, quelle mesure nous pouvons juger de cela? Donc c'est encore une inspiration que nous mettons de côté. Et puis, il y a l'inspiration idéale, c'est-à-dire, seul le contenu de l'idée serait inspiré. Les mots ne le seraient pas. Mais là, on a 2-3 versets, je pense que je ne les ai pas mis ici, Matthieu 5-18, qui nous dit, par exemple, « Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Si le Seigneur ici prend soin de définir ce qui, à l'époque, était
le plus petit signe de l'être qui existe, le iota, c'est que même pour lui, chaque mot, et je vais même plus loin, chaque lettre, chaque caractère avait certainement son importance. Jean au chapitre 17 et au verset 8 nous dit que « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Il n'a pas donné des idées, il a donné des paroles précises. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 2 au verset 13, il dit « Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc là encore, l'inspiration idéale est, je crois, quelque chose qu'il nous faut mettre de côté. Avant-dernière, l'inspiration mystique. Ça, c'est encore autre chose. Les auteurs affûteraient leur conscience religieuse jusqu'à ce qu'ils reçoivent des révélations. Comme par exemple Mahomet ou Bouddha, qui sont restés juste dans certaines situations de transe, pour pouvoir, soi-disant, ensuite recevoir des révélations d'en haut et ensuite lancer une nouvelle doctrine. Mais y a-t-il alors un critère qui permette de distinguer entre les vraies révélations et les fausses? Et dans ce contexte-là, ça sera certainement assez difficile. Enfin, l'inspiration totale des Écritures. Cette inspiration à laquelle nous croyons, les écrivains, ont été, la Bible nous le dit, totalement inspirés, mais tout en conservant, et c'est ça qui est un véritable miracle, leur caractère et leur originalité. Et c'est ce mode d'inspiration qu'on appelle inspiration totale ou inspiration verbale qui trouve sa confirmation dans la Bible. Et là, nous avons plusieurs textes. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Rien qu'avec celui-là, déjà, on ne peut pas aller bien loin. Hein. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Pierre 1,21, c'est poussé par le Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Exode 31, quand il est question, rappelez-vous, des tables de la loi. Les hommes qui sont là disent, mais c'est le doigt de Dieu. Donc c'est pas n'importe qui a laissé la parole, qui a écrit, c'est le doigt de Dieu. 1 Corinthiens 10,11, ces choses ont été écrites, pourquoi ? Pour nous instruire. Et Jean 17,17, on l'a lu tout à l'heure, ta parole est la vérité. Pourquoi Dieu nous a laissé sa parole? Quelle est l'utilité de la Bible? De Timothée, chapitre 3, verset 16. L'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. On n'est pas compliqué ce soir, hein. Certainement, je ne vais pas vous apprendre des choses nouvelles. Je ne vais pas innover, mais je crois qu'avec la parole de Dieu, on n'innove pas forcément, hein. Toujours. Elle est là, elle est bonne. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige, parce qu'on peut dévier, alors. Et elle est là pour nous instruire dans la justice. Quelqu'un a dit un jour, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science rapproche de Dieu. Et c'est une réalité. C'est une vérité. Dieu a laissé cette parole parce qu'elle est la seule base de notre foi. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » De Timothée 4,2, que lui donne comme consigne l'apôtre? Très simple, hein? Prêche tes idées, prêche ce que tu as envie, prêche tes mobiles personnels. C'est pas ça, hein? Prêche la parole. Il fait comprendre que dans cette parole, il y a tout, tu prêches la parole. Luc chapitre 4, verset 4. Il y a là les seules références citées par Jésus dans son combat qui était avec l'ennemi, et il a cité tout simplement « Il est écrit ». Vous vous souvenez dans le début de l'évangile? À chaque fois que l'ennemi vient l'attaquer, il dit « Oui, mais il est écrit ». Et il lui répond à travers la parole. Même quand l'ennemi prend la parole, parce qu'il sait la prendre. Est-ce que vous savez que le diable connaît toute la parole, mieux que chacun d'entre nous? Il la connaît par cœur. Il sait exactement ce qui est écrit. Il connaît tout la parole. Chaque démon savent ce que la parole proclame. Et ils y croient. Beaucoup plus que nous, parfois. Parce que pour eux, il n'y a aucun doute. Cette parole va s'accomplir. On a la preuve lorsque les démons sont face à Jésus et ils leur disent, mais tu viens avant le temps. Avant le temps, tu viens pour nous troubler, avant le temps. Mais ils savent et ils connaissent. Mais ils savent aussi quelle autorité chaque chrétien peut et doit avoir à travers la parole. Et ça, ils le savent aussi. Mais nous, parfois, nous l'oublions. Et c'est pour ça que parfois, nous n'avons pas dans notre vie les résultats escomptés. Nous n'avons pas toujours cette vie de victoire. Parce que peut-être justement cette parole, nous ne la connaissons peut-être pas très bien. Ou nous en avons oublié quelques parties. Ou nous avons mal saisi ce que véritablement Christ a fait de nous. À travers cette parole, Christ a fait de nous des rois. Alléluia. Nous sommes des princes. Nous faisons partie de son royaume. Il est avec nous. Et quand lui-même qui dirige toutes choses donne une parole, nous exécutons la parole. Mais là, je m'embarque encore dans un autre sujet. Alors, je vais revenir sur mon thème. Actes, chapitre 2, verset 42. Là encore, c'est le début de l'Église primitive et il persévérait dans l'enseignement des apôtres de la parole qui était annoncée. La composition donc de la Bible du Nouveau Testament, enfin de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Vous savez ce que veut dire le mot Bible ? Le livre. Et je dirais le livre par excellence. On l'a vu tout à l'heure, elle se compose de deux parties très distinctes. Il y a donc l'Ancien Testament, ou plus exactement l'Ancienne Alliance. Quand vous parlez à un juif, par exemple, ne lui dites jamais que c'est l'Ancien Testament. Pour lui, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Par contre, il sait très bien ce que c'est que la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Ça, ce sont deux termes qu'il connaît parfaitement. Elle se compose donc de deux parties, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et Jésus est la borne de, on pourrait dire, qui va séparer ces deux parties. Dans la première, il est annoncé. Mais dans la deuxième, il est manifesté. C'est tout différent. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que ce qui s'est passé dans l'Ancien, c'était l'ombre des choses à venir. Et nous voyons ici que la Bible a été écrite de différentes manières. Elle a été écrite sur des parchemins, sur des pots, sur du papyrus. Maintenant, on l'a sur ordinateur, sur des microfilms. On a plein de choses. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Sauf les livres de la déportation qui, eux, ont été écrits en araméen. Parce que c'était la langue commerciale la plus proche de l'hébreu à l'époque. On l'a vu tout à l'heure, composé de 39 livres. Lui a 928 chapitres, 23 214 versets. Le Dieu qui s'y révèle est un Dieu saint dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu saint, c'est l'Éternel. Il est l'Éternel et il dit, il est le Dieu jaloux de sa gloire qui demande à son peuple de marcher dans ses voies, dans l'honnêteté, dans la fidélité et dans la justice. Nous y trouvons le récit, par exemple, de la création, qui, entre parenthèses, est un récit authentique. Le récit de la création. C'est un récit qui est réel. Et ce n'est pas une légende. Je dis cela pourquoi ? Tout simplement parce que dans le monde évangélique, religieux, et j'ose même dire, malheureusement, aujourd'hui, avec beaucoup de peine, protestant, on met en doute le récit de la création. On n'y croit plus. On pense que c'était une belle histoire, mais ça doit rester à hauteur des enfants. Mais ça ne peut pas être vrai que Dieu ait fait cela de cette manière-là. Et comme par la même occasion, on met en doute le récit de la création, on met aussi en doute la divinité de Jésus-Christ et bien d'autres choses encore. Ce récit est réel, mais nous avons aussi le récit de l'homme, la création de l'homme. Nous avons la naissance d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il est question des patriarches. Il est question de ce peuple qui a été choisi par Dieu lui-même. Il est question du pèlerinage du peuple de Dieu. Il est question aussi de son installation dans le pays promis, de son séjour, de sa déportation, de tous les avertissements des prophètes envoyés par Dieu, et puis à la fin, le retour de la déportation. On vient de faire le tour de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est le seul livre qui est reconnu par Israël. La table des matières de nos Bibles correspond au canon juif qui était déjà à l'époque utilisé. Et certaines versions, par contre, comme la Tobe, qui est ou la Bible de Jérusalem, donc la Bible catholique, eux ont rajouté d'autres livres, 7 en l'occurrence, qu'on appelle les apocryphes. Et ce sont des livres particuliers. D'abord, rien que le mot apocryphe déjà veut dire caché. Caché, tenu secret, non publié, suspect, douteux. Puis ensuite, ils subiront l'expression inauthentique. On trouve dans ces 7 livres, vous avez les livres de Tobie, vous avez le livre des Maccabées, le livre de la Sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch et Judith. J'ai dit quelque chose ? Ouais, livre de la sagesse, ouais. Je l'ai cité. Ouais, c'est ça. Hein, je ne suis pas trompé. Tobie, les Maccabées, livre de la sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch et Judith. Ces livres ont une valeur, mais ils ont une valeur historique. Ces livres ne sont pas inspirés. Ils ne sont pas reconnus par le canon juif. Alors comment ils en sont rendus compte ? Ben, tout simplement parce que dans ces livres, ils entrent en contradiction avec bien d'autres livres, les 66 autres qu'on retrouve dans l'intégralité de la Bible aujourd'hui, au niveau de bien des points de doctrine, ils rentrent en contradiction. Ils ne sont pas en accord avec tel autre point ou tel autre point. Et ils ont été ajoutés à la Bible dite des Septante ou à la Vulgate, qui est une Bible qui est apparue au 3e siècle après Jésus-Christ. Mais ni Jésus, ni les apôtres n'ont cité ou fait référence à ces livres. Hélas, ce sont ces livres qui ont été utilisés par l'Église catholique pour étayer un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, c'est dans ces livres-là et uniquement dans ces livres-là que vous trouvez le culte marial. C'est uniquement dans ces livres que vous trouvez, par exemple, la prière pour les morts, et un certain nombre d'autres choses. Dans tous les autres livres de la Bible, vous ne trouvez jamais cela. Donc c'est pour ça que ce sont des livres que nous utilisons aujourd'hui encore, qui ont valeur historique et qui sont intéressants, comme par exemple plusieurs livres de Flavius Joseph, qui était un historien contemporain de l'époque, et qui, par ses écrits, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous laisse un certain nombre de renseignements très intéressants sur la culture, sur les coutumes, sur la manière dont ça se passait à l'époque, etc., et qui sont très enrichissants, mais nous ne pouvons pas extraire de ces livres-là une pensée spirituelle ou inspirée. Elle reste tout simplement historique. Le Nouveau Testament, rapidement, pour terminer, on l'a vu tout à l'heure, donc il est composé de 27 livres, il a, lui, 260 chapitres et 7950 versets. Le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec. Il commence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, même si on le trouve dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'il est la charnière. Il est le lien entre les deux alliances. Et Jésus lui-même va le dire, il est l'Élie qui devait venir. Dans Malachie, au chapitre 4, verset 5, il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et dans Matthieu, au chapitre 11, verset 14, il est dit, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Il est donc, ce Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, nous dit Matthieu au chapitre 3, et il présente tout simplement Jésus au monde lorsqu'il proclame en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Puis, c'est la vie de Jésus qui est relatée dans les quatre évangiles. Ensuite, vous avez, vous le savez, les actes des apôtres, c'est la naissance et la croissance, la progression de l'Église primitive. Puis vous avez les épîtres, les lettres, ce sont les bases fondamentales de la doctrine, de l'enseignement des apôtres. Et puis le Nouveau Testament se termine tout simplement avec l'Apocalypse, ou comme j'ai dit tout à l'heure, plus exactement, le livre de la Révélation, qui jette tout simplement un regard sur les événements futurs et qui sont à venir. Avec la Nouvelle Alliance, Dieu est satisfait. Il est satisfait par l'œuvre de la croix, c'est le sacrifice parfait. C'est le sacrifice excellent. Et je dirais que, bien que Dieu n'ait pas changé, il est éternel, ses exigences sont accomplies en Christ. Et je dirais sa relation avec l'homme est devenue beaucoup plus intime au travers de la croix. Jésus a accompli la loi et les prophètes. C'est ce que lui-même dira dans Matthieu, chapitre 5, au verset 17. On n'a pas le verset là ? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais Jésus dira, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors je conclue, vraiment, maintenant. Ah oui, c'est un dernier point ça, là maintenant j'en suis dans ma conclusion. Trois versets simplement, je crois qu'ils doivent y être. Je dirais que la Bible est un livre complet. Apocalypse, chapitre 22, verset 18, il y est. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est un livre vrai. Jean 17, 17, on l'a lu tout à l'heure, ta parole est la vérité. Et 2 Pierre 1,20 nous dit, sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On l'a cité déjà tout à l'heure, c'est un livre vrai, c'est un livre complet. La Bible, nous devons le réaliser, n'est pas un livre de légende. Ce n'est pas un livre d'images, ce n'est pas un livre de métaphores ou d'allégories. La Bible, comme même si certains veulent tordre cela, même des hommes religieux ou des hommes d'église, la Bible est un livre vrai, la Bible est un livre puissant, parce que la Bible est un livre vivant. Elle est cette parole de Dieu vivante. Et ses écrits sont tous entièrement authentique, que ce soit la création, le déluge ou le reste, et ce livre ne nous conduit pas à la théorie de l'évolution, mais ce livre nous conduit tout simplement à la découverte du Dieu de la création. Le Dieu créateur qui crée aujourd'hui encore dans nos vies. Alléluia. Que son nom soit béni, c'était la première partie concernant cela. Dimanche, nous verrons, là je dirais, c'était un peu le côté pratique. Dimanche, nous entrerons plus dans le détail d'une manière, je dirais, peut-être spirituelle, même si ce soir c'était spirituel aussi, mais nous entrerons plus dans le détail quant à ce livre, et nous nous arrêterons sur les images de la parole de Dieu. Et vous verrez qu'il y a là des choses extraordinaires. Commencez déjà à réfléchir là-dessus. Différentes images sont données. La Bible est comparée à quoi ?
une semence, à une enclume, à des marteaux, à une épée, voilà. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'images qui sont données, et dimanche on aura l'occasion de voir cela ensemble. Amen.